Les Voies de service magazine, mercredi le 13 décembre 2017. Bonjour et bienvenue à Les Voies de service magazine. C'est Daniel Lachance qui vous parle ce matin en l'absence d'Isabelle Falardeau, notre collègue habituelle. Et j'ai avec moi mon collègue Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Serge, ça va
et
bien.
Et vous êtes très content que je sois là, n'est-ce pas?
Parce absolument.
Que j'arrivais un petit peu géré, là, et j'en voyais dans votre, dans vos yeux, dans votre regard,
oui.
L'inquiétude.
Deux, on est capable de se débrouiller, mais à un, ça commence à être un petit
oui,
peu plus.
Oui. Je pense qu'il y aurait beaucoup de musique qui aurait joué.
Effectivement. Mais là, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on aura suffisamment de sujets pour
combler
l'heure à nous deux.
Oui, oui, oui.
Et même, on va peut-être aller jouer un petit peu dans les plates-bandes d'Isabelle, étant donné qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Je vous en reparle tantôt. Donc, Serge, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Écoutez, dans la presse de dimanche, j'ai des articles pour des semaines.
Bon.
Il y avait un cahier spécial parce que la presse va passer entièrement au numérique le 1er janvier. Là, jusqu'à depuis un an, il y avait la presse du samedi
le
seulement
samedi,
en papier.
Oui.
Ils avaient arrêté la publication de la presse papier durant la semaine. Donc là, ils passent entièrement au numérique. Donc, il y a trois cahiers spéciaux. Enfin, quatre avec cette semaine, je pense. Un, deux, trois, quatre, quoi. Sur Montréal, alors, écoutez, comme cette semaine, il y en a là, sur les grands travaux de Montréal depuis 1800 quelque chose. Là. Les grands criminels de Montréal, les grands politiciens de Montréal, en tout cas, tout ça. Alors, j'en ai pour plusieurs semaines. Et également, un autre article dans la presse qui, je pense, quelque chose qu'on ignore, c'est que le château de Downton Abbey, la fameuse série.
Oui, la série.
Le magnifique château a servi, c'est avec preuve, on a les preuves, a servi de cadre aux négociations pour la création de la Confédération canadienne en 1866.
Donc, notre histoire est rattachée
à
Downton Abbey,
qu'on le veuille ou non, oui.
Et moi, de mon côté, j'ai plusieurs petits articles, mais je ne vais pas tous vous les nommer parce que je ne sais pas ce qu'on aura le temps de faire. Donc, je vais vous parler, je vais vous parler de la musique de Noël. C'est un petit peu dans l'ambiance, oui.
Ben oui.
Et je vais vous parler de neige aussi, parce que c'est quand même le sujet depuis 2 jours, je pense. Alors, je vais vous permettre de...
Je me lance.
Oui,
d'accord. Alors, un article de Laura-Julie Perrault dans la presse de dimanche, « Le Canada et Downton Abbey, destin croisé ». Ben, regardez si la photo est belle. Là.
Oui.
Le château de Downton Abbey dans la neige. C'est beau. Alors, le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, aurait pu être une vedette de la série Downton Abbey, figurez-vous. L'actuel occupant du château Highclere, c'est le nom du château de Downton Abbey, Highclere, qui a servi de décor à la célèbre série britannique, a récemment pris conscience qu'une partie de la Constitution canadienne a été négociée et écrite dans l'opulente demeure. Oui, une partie seulement, oui. Entre deux whisky.
Ah, ça compte quand même,
La comtesse de Carnarvon, c'est son titre, qui tient un blog sur le château, a raconté à la BBC avoir fait cette découverte après avoir consulté un vieux livre en d'or. On peut y voir que John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier, deux des pères de la Confédération canadienne, y ont séjourné en décembre 1866, soit quelques mois avant l'adoption de la Constitution du Dominion du Canada par le Parlement britannique, et l'obtention de la sanction royale de la reine Victoria en mars 1867. Les deux hommes qui ont dirigé conjointement les destinées de la colonie avant la Confédération travaillaient à ce projet depuis plusieurs années avant de fignoler une partie de l'entente d'union au château situé tout juste à 100 km à l'ouest de Londres. Les registres du château ainsi que les mémoires publiées par John A. Macdonald indiquent que le comte de Carnarvon, Monsieur Macdonald et Monsieur Cartier ont notamment discuté du nom du nouveau pays à naître dans la bibliothèque du château. Parmi les options, on retrouve le nom de Franklin.
On aurait pu s'appeler des
Franklinien, Franklinienne, oui.
Échappée belle.
Oui. Oh, mais écoutez, c'est rien à compter de l'autre nom qui s'en vient, là. Et de Guelphenland.
Bon, je pense qu'on aurait déménagé.
Alors, on serait devenus les Guelphenlandiens et Landiennes. Cependant, l'appellation de Canada, déjà utilisée de l'autre côté de l'Atlantique, a été finalement retenue par la reine.
Ah.
Voilà. C'est grâce à la reine Victoria que nous nous appelons Canada.
On lui doit un gros merci aujourd'hui.
Oui. Le sort du Sénat. Oui, c'est intéressant pour le Sénat. Selon les recherches de la comtesse, le comte et ses invités ont aussi eu de dures discussions sur la création du Sénat. Si le secrétaire des colonies croyait que le mandat des sénateurs devait être limité dans le temps, John A. Macdonald était favorable à une nomination à vie.
À vie, aussi bien de lui. De...
Okay. Ouais. Sur ce point, le politicien du Haut-Canada semble avoir emporté haut la main la mise. Lors des pourparlers, il a aussi été question de la création d'un chemin de fer transcontinental, un sujet cher au cœur de celui qui allait devenir le premier ministre du pays. En 1885, le chemin de fer qui reliait Montréal à Vancouver a été inauguré, ouvrant la voie à l'adhésion de la Colombie-Britannique et du Manitoba à la Confédération.
Est-ce que vous vous souvenez le nom de ce train-là? Je ne suis pas sûr à 100%.
Le Transcanadien?
Non, c'est pas le Grand Trunk Railroad.
Ah oui, 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 c'est vrai, oui, 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 vous avez raison, oui. Je...
Quand même.
On a déjà eu un article sur ça, oui. J'ai eu un article sur ça, c'est vrai, oui, oui, oui. Mes recherches ont aussi révélé le côté excentrique des grandes affaires d'État, écrit la comtesse sur son blog. Ce qu'un tel devrait porter pour rencontrer la reine. Pourquoi Ottawa est devenue la capitale? Les ratures sur des papiers avant d'en venir à un accord sur un point. Le discours de Lord Carnarvon sur la beauté du Canada était écrit l'actuelle comtesse. Dans ses commentaires, cette dernière estime que son ancêtre était l'homme clé des négociations, ni plus ni moins. Or, les historiens notent qu'une bonne partie du travail avait été fait sur le sol canadien. Les bases de la Confédération ont été dessinées à la Conférence de Québec en octobre 1864, soit deux ans avant. Mm-hmm. La Conférence de Londres de 1866 a permis de donner une forme légale aux résolutions de Québec. Probablement que pendant cet épisode, certaines choses ont été ajoutées et enlevées, note Bob Botwell, en ajoutant que c'est vraisemblablement pendant cette période que Macdonald et Cartier ont été les hôtes du château. Dans ses mémoires, John A. Macdonald décrit le château comme un des endroits les plus sensationnels de l'Angleterre. Plus de 150 ans plus tard, des millions de téléspectateurs partagent son opinion. Les 6 saisons de la série Downton Abbey, qui racontait l'histoire fictive de la famille Crawley au début du 20e siècle, ont fait connaître le joyau architectural britannique au grand public. Une partie de l'histoire de la télésérie était d'ailleurs inspirée de celle de la famille Carnarvon. Aujourd'hui, le château est ouvert aux visiteurs pendant l'été, et pour le 150e anniversaire du Canada, la comtesse de Carnarvon a préparé une petite exposition consacrée au rôle du château dans la création du Canada. Maintenant, John A. Macdonald, petite note biographique de Macdonald et Cartier, né en Écosse en 1815. John Alexander Macdonald a immigré à Kingston, alors centre névralgique du Haut-Canada, à l'âge de 5 ans. D'abord avocat, il devient député conservateur dans l'Assemblée législative du Canada uni en 1844. Une décennie plus tard, il est co-premier ministre de la même Assemblée aux côtés de Georges-Étienne Cartier. Il joue ensuite un rôle central dans la création de la Confédération canadienne. Il est d'ailleurs le premier à occuper le poste de premier ministre du Canada, poste qu'il conservera pendant 20 ans.
Quand même.
De 1867 à 1891.
Il aurait dû devenir sénateur, par exemple.
Oui, ben oui. il est mort en 1891, donc. Récemment, l'héritage de Macdonald a été remis en cause par plusieurs groupes qui considèrent qu'il a été l'architecte d'un génocide contre les peuples autochtones du Canada. Oh. On en a parlé d'ailleurs.
Oui, ça noircit un peu son image.
Ouais. Georges-Étienne Cartier, né en 1814 à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Georges-Étienne Cartier se joint aux Fils de la Liberté et prend part à la rébellion des Patriotes de 1837. Après une amnistie, il revient d'exil aux États-Unis et finit par accepter l'union des deux Canadas. Il devient député à l'Assemblée législative du Canada uni, dont il deviendra co-premier ministre avec John A. Macdonald de 1857 à 1862. Conservateur, il se lance ensuite en campagne pour faire accepter l'idée de la Confédération par les francophones et devient un des pères de cette confédération. Il sera ensuite ministre de la Défense sous Macdonald avant d'être emporté par un scandale. Il meurt en 1875. Donc un article de Laura Julie Perrault de la presse de dimanche. Voilà, on en sait un peu plus maintenant.
Sur Downton Abbey et sur notre pays.
Oui, oui, oui.
Retour après cette belle pièce. Je pense que c'est Tchaïkovski. Hein? C'est sur Nutcracker Suite. Ça.
Ouais. Ça? Il
me semble que oui.
Je sais pas. Ça, oui, ça me dit quelque chose. Réponse, oui, oui.
Je pense que oui, on va vérifier tantôt. Donc, suite.
Oui, alors donc, pour ce fameux spécial sur Montréal, il y a une, il y avait une partie sur les chantiers pharaoniques.
Oui, oui.
Oui. Alors, en matière de construction, le génie humain a laissé sa marque depuis des millénaires, évidemment. Les pyramides n'ont-elles pas plus de 4000 ans?
C'est ce qu'on dit, oui.
Oui. Montréal compte aussi son parc de chantiers pharaoniques. Ils n'ont pas 4000 ans, on
ouais,
s'entend.
Oui, mais nos ponts durent à peine 50 ans.
Oui,
bon.
Non, parle de... commencez pas ça, là, parce qu'on va, on va pas grimper tout le monde au plafond. Donc, qui ont profondément transformé le visage de Montréal au fil du temps. Donc, le tunnel sous la montagne.
Oui.
Mm-hmm. Alors, juillet 1912... La compagnie de chemin de fer Canadien Nord veut instaurer un service de liaison vers l'ouest canadien. Sa volonté est d'installer une gare au centre-ville et de construire un chemin de fer qui contournera le Mont-Royal à un coût raisonnable. Or, la seule façon d'y arriver est de percer un tunnel. Les travaux sont lancés. En décembre 1913, les travailleurs qui ont creusé aux deux extrémités se rejoignent à 188 mètres de profondeur.
Prenant un risque quand même, s'ils ne se rejoignaient pas, on aurait
eu deux tunnels. Oui. 5 ans plus tard, le service est inauguré. À la sortie nord-ouest du tunnel, on aménage un nouveau quartier dont la vente de terrain permet de financer les travaux. Ainsi naît Ville-Mont-Royal. Mm-hmm. Le pont Jacques-Cartier. Les 13, 14, 24 et 26 mai 1930, le nouveau pont du Havre, appelé à devenir Jacques-Cartier en 1934, fait la une de la presse. Il faut dire que ce premier lien entre Montréal et la Rive-Sud, voué à l'automobile, vient enfin d'être terminé après 5 ans de travaux. Une spectaculaire photo aérienne publiée à la une du 13 mai 1934 permet de voir l'ampleur de la structure. Les premiers usagers traversaient le pont dès le lendemain et l'inauguration officielle a lieu le 24 mai 1930. La voie maritime du Saint-Laurent.
Oh, ça, c'est beaucoup plus récent,
ouais,
je pense.
Ouais. Ouverte à la circulation dès le 25 avril 1959. Quand voilà, même. Ben, ouais. J'étais petit, j'avais 9 ans ouais. Quand ils ont ouvert ça. La voie maritime du Saint-Laurent est inaugurée le 26 juin 1959. Ce jour-là, Montréal reçoit de la grande visite. La reine Élisabeth II,
wow.
Le président américain Dwight D. Eisenhower et le premier ministre John D. Diefenbaker.
Je pense que la voie maritime, c'était partie d'un gros, gros projet qui se rend jusqu'à Toronto, dans le fond.
Oui,
toute
oui.
Une série d'écluses, il y en a je ne sais pas combien.
Oui, 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 oui. Une nouvelle page d'histoire a été écrite, soutient la presse, dans son reportage. Amorcée en septembre 1954, les travaux de près de 500 millions de dollars à l'époque, aujourd'hui ce serait, prévoient la construction de 7 écluses, dont 5 en territoire canadien, donc 2 en territoire américain, sur une distance de 306 kilomètres.
Quand même.
Ironiquement, l'ouverture de cette voie d'eau sonne le glas du canal Lachine, immense chantier du 19e siècle à Montréal. Le métro. Depuis 1910 qu'on en parlait. On en parlait quand même, oui. Depuis 1910.
Hein. On a été patients.
Oui, très, très, très. Titre la presse le mercredi 23 mai 1962, alors que s'amorcent les travaux de construction du métro de Montréal, qui occuperont plus de 5 000 travailleurs. Coût associé aux deux premières lignes, un peu plus de 132 millions de dollars. Cette date vient prouver que ce n'est pas l'Expo universelle, attribuée le 13 novembre 1962, qui a entraîné la construction du métro. En revanche, elle a amené l'ajout de la ligne 4, la ligne jaune. Les 20 premières stations sont inaugurées le 20 octobre 1966. D'autres prolongements suivront.
Je pense que la ligne verte, au début, se terminait à Baudry.
Non,
Atwater,
Frontenac,
ah oui? De ouais. Atwater à Frontenac. Je me souviens que ça finissait à Atwater dans l'ouest. Et puis de l'autre côté.
C'était à Frontenac. Je me rappelle, j'avais...
Il y avait comme trois stations après.
J'avais des camarades de classe qui demeuraient là, dans le Chaga, puis ils arrêtaient à Frontenac. Et après ça, ça a été prolongé.
Plusieurs prolongements. Mm-hmm.
Les autoroutes métropolitaines et Ville-Marie maintenant.
Mm-hmm. À peu près les mêmes années, je dirais.
Oui, années 60. Le 23 janvier 1960, un premier tronçon de l'autoroute métropolitaine est inauguré entre le boulevard Pie-9 et un point situé entre les autoroutes des Laurentides et des Caries. 12 ans plus tard, le 2 novembre 1972, c'est au tour du premier tronçon, le tronçon Guy des Caries, de 3 km de l'autoroute de Ville-Marie, d'être ouvert. Plus récemment, les travaux de recouvrement d'une partie de cette artère ont créé un autre grand chantier dans la ville. La maison de Radio-Canada.
Ah, ça, c'est beaucoup plus récent, il me semble.
Qu'est-ce qui a le plus fait jaser au cours des travaux entourant la nouvelle maison de Radio-Canada au début des années 70? La construction du nouveau complexe ou la destruction systématique du fameux faubourg à la place?
Ouais, je pense que c'est la destruction.
Oui. Chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui.
Non.
Ce serait... non. Celle-ci a, en son temps, fait beaucoup de bruit. Dans les années 60, les bâtiments de ce quartier populaire de 25 acres sont rasés, incluant près de 700 logements. Environ 5000 résidents sont déplacés. À l'heure actuelle, une nouvelle maison de Radio-Canada est en construction dans la partie est du terrain, soit au coin des rues Papineau et René-Lévesque. J'ai encore le temps pour...
Non, on reviendra. Oui,
OK, parfait. Excellent.
On y reviendra plus tard.
Dam tili dam tili dili dili dam. Pomash gush nuch wash na chweoch. Ikumak te ketch tit na kanuto. Wash not your out, come on, get the catch to knock a noodle. Thank you.
Pièce qu'on dédiera à Isabelle, prompt rétablissement. On vient d'entendre Chloé Sainte-Marie, Le Sauvage du Nord.
Le Sauvage du Nord qu'on a entendu en français et dans une langue autochtone qu'on n'a pas pu identifier, malheureusement, notre culture étant oui. assez limitée là-dessus. Mais effectivement, étant donné qu'Isabelle n'est pas là aujourd'hui, on va aller jouer un peu dans ses plates-bandes. Un article est paru dans la presse aujourd'hui qui s'intitule « Des centaines de mots pour dire la neige », un article de Louise Leduc. Neige à bonhomme, poudrerie, gadou, neige mouillée, neige fondante. Les Québécois francophones ont bien quelques mots pour décrire ce qui leur est tombé sur la tête hier ou ce qui les attend au cours des prochains mois. Qu'en est-il des Autochtones? Ont-ils autant de mots qu'on l'affirme pour dire la neige? Chez les Inuits, la légende urbaine racontée notamment aux Français de passage veut que les Inuits aient très précisément 52 mots pour décrire la neige.
Oh là!
La réalité est plus complexe que cela, disent les anthropologues et linguistes qui se sont penchés sur le sujet. Les Inuits parlent différents dialectes et l'inuktitut étant une langue dite agglutinante, avec des mots constitués d'un radical de base et d'affixes qui viennent en préciser le sens, ce ne sont pas tant les mots que les combinaisons qui sont innombrables. Dans son dictionnaire de l'inuktitut du Québec évoqué dans l'Encyclopédie canadienne, Lucien Schneider évoque les mots d'usage très courants comme « canique », neige qui tombe, « apeuti », je ne sais pas si je les prononce comme il faut, là, je m'excuse à l'avance, mais je les prononce comme ils sont écrits. « Apeuti » qui voudrait dire « neige sur le sol » et « putac », neige cristalline sur le sol. Ah. Donc, il y a beaucoup de nuances. Hein? Nous, c'est de la neige. Ça finit là. Il parle aussi de « mojack », qui signifie « n'importe quel sol mou dans lequel on peut s'enfoncer », boue, terre marécageuse, sable mouvant, mais qui ne peut se rapporter qu'à de la neige toute molle en hiver. Louis-Jacques Doret, dans l'ouvrage « The Language of the Inuit », retient 25 termes de base liés à la neige, parmi lesquels « matsaak », neige à moitié fondue au sol, « omanak », neige au sol sur le point de fondre, « ilusak », neige parfaite pour construire un igloo, et « kanialaak », petite neige douce. Dans certains dialectes, on utiliserait des expressions qui désignent de la neige tassée, fondue, là où un chien a dormi, la première neige de l'automne et même banc de neige formé par un vent du sud-est. Chez les Algonquins, coup de fil à Georges Lafontaine, agent d'information pour le conseil tribal de la nation algonquine, Anishinabek, qui gentiment se met à fouiller dans son grand dictionnaire pour nous. De la neige, on dit communément « con », qui écrit K-O-N, je suppose. Mais avec tous ces dérivés, il y a près de 200 mots pour dire cela, de la neige. Comme les Québécois, les Algonquins ont aussi un terme pour la neige mouillée, mais aussi un autre pour neige abondante, petite neige, neige qui t'arrive en pleine figure. Ça, on n'a pas ça, nous. C'est
non.
De la neige quand t'arrives n'importe
rafale,
où.
La rafale.
Ah oui, peut-être rafale, oui, ça peut... Ils ont pensé aussi qu'il leur faudrait des expressions toutes faites pour dire « rester pris dans la neige profonde ». Nous, on a des mots religieux pour parler de ça. Eux, c'est « nawaham » ou « être enterré sous la neige ». Oh, celui-là, je ne suis pas certain de le prononcer comme il faut. « Ningwagon », N-I-N-G-W-A-G-O-N-E. Chez les Hurons, il n'y a hélas pas de grand dictionnaire à consulter. On est en train de travailler là-dessus, dit Marcel Godbout, agent culturel à la nation Huron-Wendat. C'est que si la langue Huron n'est pas morte, elle est endormie. On a bien une douzaine de manuscrits pour la reconstituer, mais les Hurons ne la parlent plus dans la vraie vie, explique M. Godbout. En gros, ça se limite à « bonjour, comment ça va ?» Neige, on sait. Oui, on sait pour neige. C'est « on... » Oh boy. « On di nian... » O-N-D-I-N-I-E-N-H-T-A. Ondinienta, je pense. Mais tempête de neige, c'est perdu. Chez les Mohawks, même combat. Il y a 5 ans, à Kanisatake, on a fait le décompte. On en était environ... On était environ 100 personnes à être capables de parler la langue, dit Nancy Howard, qui enseigne le Mohawk intensif aux adultes. Là, avec tous les décès, il n'y a plus que 60 personnes et on est plus jeune. Âgée de 72 ans, Mme Howard est donc l'une des dernières au Québec à parler la langue à la perfection. Le Mohawk est une langue très descriptive, dit Mme Howard. Il y a des expressions qui désignent les dernières traces de neige au printemps, kanye take, une tempête approche. Ceux-là, je ne vais pas les dire. J'ai l'enregistrement sur l'article. Je vais les faire jouer parce qu'il y a une personne qui les prononce de la bonne façon. Mm-hmm. Donc, ou poudrerie et de la glace qu'on peut lancer et un terme qu'on utilise pour parler de pluie verglaçante. Je vais approcher ma tablette du micro. J'espère que vous pourrez bien l'entendre. On a ici pluie verglaçante. Mm-hmm. Je ne l'aurais pas prononcé aussi bien. la tempête de neige arrive. Amas de neige au printemps. Et neige virevoltante. Ah. Voilà. Alors, merci, madame. Je n'aurais pas su si bien dire. Donc, c'était, je pense, assez intéressant de voir toutes les façons de parler de neige. Et vous...
Oui, d'ailleurs, c'est parce que je pense que la semaine dernière, Isabelle a parlé d'un quelque chose d'un peu similaire. C'est que c'était... il y a des noms dans les langues, je ne sais pas dans laquelle langue c'était, là, mais au lieu... il n'y a pas de pour maison. Mm-hmm. Quand ils disent « je vais à la maison », ils ne diront pas « je vais à la maison », « je vais à l'endroit où je vis ».
Oui,
c'est la définition et non le mot.
C'est l'image.
Je vais à l'épicerie, je vais à l'endroit où acheter des choses, des produits.
C'est ça. D'une langue à l'autre, je pense que c'est ce qu'il faut faire attention, surtout quand on essaie de traduire en français. Plusieurs mots pour désigner la même chose. Mm-hmm. Et c'est ça. Parfois, dans d'autres langues, c'est plutôt l'image de ce qu'on veut représenter. Mm-hmm. Donc, c'est assez différent. Alors, je suis très prudent quand j'essaie de prononcer ces choses-là. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil à Isabelle, qui on souhaite encore un bon rétablissement. Et on espère qu'elle sera avec nous la semaine prochaine pour la dernière émission avant les vacances.
Ben oui, c'est ça. Oui. Puis après ça, on revient, on verra.
On vérifiera ça tantôt.
Je pense que je ne suis pas le retour.
Ça met fin à la première partie de l'émission Les Voix de Service Magazine du mercredi 13 décembre. On vous revient tantôt après la pause.
Avec sa canne dans les mains, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, quand chante vers le ciel les cloches de la nuit. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, Il flotte un air de fête. Partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Bonne année grand-mère, bonne année grand-mère.
Henri Salvador qui nous chantait Vive le vent.
Vive le vent d'hiver. Et d'ailleurs, Henri Salvador, qui est une de ses dernières chansons, s'appelait Jardin d'hiver.
Vraiment, ah
oui? C'est un thème mm-hmm. assez important mm-hmm. dans sa vie.
Ben oui.
Donc, Serge, de quoi allez-vous nous parler maintenant?
Oui, alors, encore, je continue avec mon spécial de la presse, qui est très intéressant. Le titre « L'île métamorphosée en métropole ». Depuis les années 1880, Montréal s'est résolument transformé. Sa population s'est pratiquement multipliée par 12 en 135 ans, nourrie notamment par de nombreuses vagues d'immigration qui lui ont donné son caractère unique. Retour sur quelques-unes des étapes de son évolution vers le statut de métropole. D'ailleurs, seriez-vous intéressé à savoir, on nous fait un petit tableau de la population depuis 1881.
Oui, ça doit avoir... on l'a dit, ça va multiplier par 12 environ.
Oui, risqueriez-vous...
Mettons qu'on divise par 12. Celle d'aujourd'hui, ça nous donnerait...
Risqueriez-vous un chiffre en 1880?
Je ne suis pas bon à calculer.
Presque 141 000 personnes.
OK.
51 000, oui. Maintenant, si on allait, mettons, en 1921, je vais monter la petite flèche, là. 1921, on était à 618 000.
OK, ça commence déjà.
Puis, voyez-vous, 1961... 1 191 000.
OK, là, les problèmes de circulation
commencent. Et aujourd'hui, on est rendu à 1 million, presque 648 000.
Ce qu'il faudrait regarder, c'est depuis le début de l'automobile.
Ah oui,
quel chiffre ça s'est... C'est pas le nombre de personnes.
Comme on dirait, quelle année après l'automobile, je peux l'avoir. Voyez-vous, j'ai 1921, 31, 41, 51. L'automobile, les années 50?
Peu avant, mais que toutes les familles avaient une auto, là, peut-être dans les années 50, après la guerre.
Ouais. 50, je sais, ouais.
Oui, peut-être.
Parce que les gens ne gagnaient pas beaucoup de sous, quand même. En tout cas, en 50, il y avait 903 000 personnes. En 41, il y a pas là, 818 000. Ouais. Alors, l'expansion. C'est un article de Étienne Plamondon-Aimont. Au début de la décennie 1880, les frontières de Montréal étaient demeurées quasiment inchangées depuis presque 100 ans. Délimitée au sud par le fleuve, la ville s'arrêtait dans les environs des rues Duluth au nord, Iberville à l'est et McGill à l'ouest. Au moment de la création de la presse en 1884, cette zone avait alors atteint sa pleine capacité. Une expansion urbaine s'amorce dans une île encore dominée par un paysage agricole parsemé de petits villages.
C'est difficile à imaginer aujourd'hui un paysage agricole sur l'île de Montréal. Mais... Mm-hmm.
Ouais. Moi, quand ma mère est arrivée à Montréal avant la guerre, elle me disait qu'il y avait encore des fermes du côté de Rosemont, entre autres les fermes Joubert, la laiterie Joubert qui n'existe plus aujourd'hui.
Là. Donc, ces développements-là, c'est pas si vieux.
Non, 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 non. Montréal annexe trois villes où la population s'est massivement installée en périphérie de ses frontières. Hochelaga à l'est en 1883, Saint-Jean-Baptiste, l'actuel Plateau-Mont-Royal, en 1886, et Saint-Gabriel, qui est aujourd'hui Pointe-Saint-Charles, en 1887. La ville de Saint-Henri, quant à elle, sera intégrée au début du 19e siècle. À partir de 1893, le prolongement du tramway vers le nord de l'île jusqu'au village d'Onsic contribue au développement urbain sur cet axe. Le long du fleuve, des bourgeois quittent le quartier d'Hochelaga pour fonder la municipalité de Maisonneuve, plus à l'est. En 1885, le village de Côte-Visitation se divise pour former la municipalité à vocation urbaine de Lorimier et le village à vocation agricole de Petite-Côte, qui est aujourd'hui le quartier Rosemont. Ah ben, c'est ça, les fermes Joubert. La rive ouest de l'île, entre Dorval et Sainte-Anne-de-Bellevue, voit émerger des centres de villégiature grâce au passage à proximité du... Grand tronc du Canadien Pacifique.
Ah, voilà,
vous parliez
voilà
tout à l'heure.
Train,
c'est
ben oui.
Ça, oui. De 1910 à 1945. Pendant la décennie de 1910, Montréal annexe les villes de Cartierville, Sault-Récollet et Maisonneuve. L'implantation au sud-ouest de l'île d'entreprises dans le domaine de l'industrie lourde favorise l'essor de la Chine et de Verdun. Au nord du Mont-Royal, la compagnie de chemin de fer Canadien Nord, qui construit un tunnel sous la montagne, comme je l'ai eu tout à l'heure, fonde Ville-Mont-Royal en 1912, tandis que la communauté religieuse des Clercs de Saint-Viateur développe progressivement la ville d'Outremont. À partir de la moitié de la décennie 1920, le flanc nord de la montagne, désormais raccordé au réseau d'égouts et de tramways, attire des établissements religieux, d'enseignement et de santé, qui transforment le quartier Côte-des-Neiges et la ville voisine de Notre-Dame-de-Grâce en zone résidentielle. De 1945 jusqu'à aujourd'hui, l'intensification de l'activité minière dans les carrières du Nord-Est après la Seconde Guerre mondiale stimule le développement du quartier Saint-Michel. Quelques années plus tard, la construction de l'autoroute métropolitaine, dont le premier tronçon s'ouvre en 1960, fait l'effet d'un électrochoc. Elle métamorphose le paysage de l'est de l'île. Ça, c'est moins compliqué.
Oui, effectivement. Ouais.
En moins de 20 ans, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'installent sur les territoires de Saint-Léonard et de Ville-d'Anjou, jusque-là agricoles. L'axe routier permet également d'urbaniser Cartierville au nord et Ville-Saint-Laurent au nord-ouest. Entre Dorval et Sainte-Anne-de-Bellevue, la rive ouest vit aussi une certaine croissance. Le gouvernement du Parti québécois fusionne l'ensemble des municipalités de l'île en une seule en 2002. On s'en souvient.
Oui, ça avait fait beaucoup de
temps. Oui. Le gouvernement libéral, élu l'année suivante, permettra quant à lui aux arrondissements qui le souhaitent de redevenir des villes indépendantes en 2006. Alors, on remercie Danny Fougère, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, pour son aimable collaboration à la préparation de cette historique-là. Ensuite, Montréal, ville cosmopolite. L'arrivée massive d'immigrants de différentes nationalités a modifié le visage de la métropole. Retour sur les grandes vagues d'immigration qu'a connues Montréal. Les Irlandais. Après avoir traversé l'Atlantique à bord de bateaux à voile, un nombre considérable d'Irlandais accoste à Montréal entre 1815 et 1870, donc sur une bonne période. Hein. Dès 1833, le trèfle apparaît d'ailleurs sur les armoiries de Montréal en reconnaissance de leur contribution à la ville. Mais c'est durant la décennie 1840 qu'ils se bousculent pour s'établir ici afin de fuir une île accablée par une terrible famine, liée entre autres à la pomme de terre.
Ah bon?
Oui, où la pomme de terre se pourrissait dans les sols et puis comme c'était ça fournissait la grande partie de... 70% de leur
donc,
alimentation.
Ils ont immigré ici pour manger des pommes de terre.
Non, en Irlande, la pomme de terre, c'est ça.
C'est
oui, bien, ils ont probablement mangé d'autres choses.
Ici, il y en avait des pommes.
Oui, mais ils ont dû manger d'autres choses ici parce qu'on avait autre chose. La communauté s'implante dans le quartier ouvrier de Griffintown, près des chantiers du canal de la Chine et du pont Victoria, auxquels ils travailleront, ainsi que de l'église catholique Sainte-Anne, qu'ils fréquentent à l'angle des rues Bassin et de la Montagne. La rue Bassin. Hein. Chaque année, le défilé de Saint-Patrick attire des milliers de personnes dans le centre-ville de Montréal, d'ailleurs. Les Juifs, fuyant par milliers, les persécutions dont ils sont la cible en Europe de l'Est, notamment en Russie, sous le régime tsariste, plusieurs juifs askénazes se réfugient à Montréal à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. La plupart d'entre eux s'installent autour du boulevard Saint-Laurent, où ils démarrent des commerces dans le secteur du détail ou de l'alimentation. La communauté juive connaît deux autres vagues d'immigration, l'une après l'Holocauste, évidemment, et l'autre composée de Juifs séfarades quittant l'Afrique du Nord à partir des années 50. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, bien des Juifs anglophones migrent vers l'ouest de l'île, dans les villes d'Amstead, de Lard-des-Ormeaux et de Côte-Saint-Luc. Et on me dit ici, des boulangers préparent le matzah, Ah oui, ça c'est la photo ici, oui, c'est une photo, des boulangers juifs préparent le matza pain consommé à la Pâque juive, où on les voit, là, c'est des grandes galettes. Les Italiens, avec le rêve d'une Amérique prospère en tête, plusieurs paysans du sud de l'Italie, c'est la région la plus pauvre à ce moment-là en Italie, débarquent à Montréal au tournant du 20e siècle, au début de la Première Guerre mondiale. La communauté s'installe d'abord au centre-ville pour travailler dans les compagnies de chemin de fer. Avec l'inauguration de l'église Notre-Dame de la Défense en 1919, elle déménage au nord de la rue Beaubien, dans ce qui deviendra la Petite Italie. Non, c'est pas dans cette église-là qu'il y a la fresque avec Mussolini, qui est peinte, ouais. Là, ouais, et qu'on peut voir encore, qui n'a pas été changée. Une deuxième vague d'immigration s'amorce après la Seconde Guerre mondiale, faisant tripler cette communauté dans les trois décennies suivantes. À partir des années 50, elle se déplace toujours plus vers l'est de Montréal, d'abord dans la petite patrie, puis à Saint-Léonard. J'ai le temps encore pour... Oui. Les Grecs. Des Grecs de la péninsule du Péloponnèse commencent à s'installer à Montréal dès le 19e siècle, mais une vague plus importante s'amorce dans les années 50, alors que ce pays se remet péniblement de la Seconde Guerre mondiale et d'une guerre civile, d'ailleurs. Cette immigration atteint son apogée en 1967, alors que des milliers de personnes fuient la dictature des colonels. La communauté hellénique de Montréal s'installe au centre-ville, d'où elle se déplace progressivement vers le nord, en longeant l'avenue du Parc, d'abord pour s'implanter dans le Mile End, puis dans le Parc Extension, où elle s'établira vers la fin des années 60. Plusieurs commerces grecs y ont encore pignon sur rue, même si une part importante de la communauté a déménagé à Laval depuis. Il me reste les Portugais, les Italiens, les Vietnamiens, Chinois, Haïtiens, les Maghrébins, on passe ça tout à l'heure?
On voulait voir encore? Faire une autre,
ouais. Les Portugais. J'adore la cuisine portugaise. J'adore la cuisine grecque aussi. Lorsque le Brésil ferme ses frontières à l'immigration dans les années 50, plusieurs paysans de l'archipel des Açores et de l'île de Madère se tournent vers le Québec pour échapper au marasme économique et à la dictature portugaise qui sévissait à ce moment-là. Ils travaillent d'abord dans le secteur agricole, puis s'installent à Montréal. Plusieurs jeunes Portugais trouvent ensuite refuge ici pour éviter le service militaire obligatoire lors des guerres d'indépendance dans les colonies portugaises d'Afrique. Puis lors des lendemains mouvementés de la Révolution de 1974 au Portugal. La communauté s'implante dans le plateau Mont-Royal, entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc, à la hauteur des rues Duluth et Rachel. Toujours visible à cet endroit, elle remonte le boulevard Saint-Laurent en essaimant dans le Marlène, puis les quartiers Villeray et Saint-Michel.
Voilà. Mm-hmm. Petite pause musicale,
oui.
Et on vous revient dans quelques minutes. J'ai dit tantôt qu'on pourrait parler de musique de Noël parce que c'est le temps. Avez-vous entendu beaucoup de musique de Noël depuis...
Ben non, pas beaucoup, ça me surprend.
Cette année, on
dirait
que c'est plus lent. Habituellement, à partir de fin novembre, début décembre, faut dire que j'étais pas là pendant deux semaines.
Ben moi, faut dire que je me promène pas énormément de station en station. J'en écoute une ou deux et j'ai pas...
Peut-être qu'on va passer dans les grands magasins. Ouais. C'est ça le problème avec Amazon. On reste chez nous pour magasiner.
Mais hier, vers 3h30, j'écoutais l'émission du Retour à la maison de Radio-Canada et ils ont fait jouer... ça m'est resté dans la tête. La chanson de Noël des Classelles. Sous un truc de neige.
Le sentier de
là,
neige.
Là, j'avais ça dans la tête toute la soirée. Je me donnais ça.
Un verre d'oreille. Mais voilà un article que j'ai trouvé... qui s'appelle « La musique de Noël peut être drainante mentalement ». C'est dans Huffington Post, oui. Si vous êtes déjà tanné d'entendre « Vive le vent » au centre d'achat, d'ailleurs on l'a entendu tantôt, il y a une bonne raison à cela. La musique de Noël peut être drainante mentalement selon une psychologue clinicienne. Les gens qui travaillent dans les magasins pendant le temps des fêtes doivent déconnecter de la musique de Noël parce que sinon, ça ne leur permet pas de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre, explique la psychologue clinicienne Linda Blair à Sky News. Vous dépensez toute votre énergie à essayer de ne pas entendre ce que vous entendez. Mais ça, je comprends, c'est des personnes qui sont immergées là-dedans. La journée longue, c'est pas comme... Chaque année, à la mi-novembre, les gens deviennent fous en étant forcés de se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et vous ne pouvez qu'imaginer ce que ça fait aux millions de personnes qui ne célèbrent pas la fête. Effectivement, c'est un peu, ça peut être un peu agressant pour ceux
qui... ceux qui n'aiment pas Noël, ceux qui n'aiment pas les fêtes, là, ça peut être...
Cette réaction psychologique, note NBC News, est connue en tant qu'effet d'exposition. Selon la chercheuse en psychologie musicale, Dr. Victoria Williamson, qui conduit la recherche en psychologie à Goldsmith University of London. Selon Williamson, il y a une relation entre le nombre de fois au cours desquelles on entend une chanson qu'on aime et notre réaction. La première fois, on se sent festif, mais lorsqu'on l'entend trop fréquemment, ça devient exaspérant. On n'avait pas besoin d'un psychologue pour nous apprendre ça.
Je n'osais pas le dire, là, je voulais pas être...
C'est comme n'importe quelle chanson qui fait la une pendant des semaines. Bon. Quiconque a déjà travaillé dans un magasin de Noël pendant le temps des fêtes va savoir de quoi je parle, mentionne Williamson à NBC News. Mais cette réaction peut dépendre de notre état psychologique parce que certaines personnes aiment ou peuvent tolérer le bombardement de musique de Noël, tandis que d'autres sentent qu'ils deviennent fous. Pour ces derniers, nous n'avons pas de bonnes nouvelles pour vous, parce que la musique de Noël, du moins dans les magasins, est là pour rester, et c'est parce qu'elle encourage les clients à acheter davantage. C'est pas une grande surprise ça non plus, je pense. Non. La recherche a démontré que le bon équilibre d'odeurs et de chansons de Noël peut rendre les acheteurs plus favorables à leur environnement, ce qui leur donnera le goût de magasiner davantage. Donc, on fait appel à tous les sens, dans le fond. On fait des décorations, on fait jouer de la musique de Noël, on met des odeurs aussi qui nous rappellent Noël, tout ça. Donc, on a démontré que la musique des fêtes, combinée avec des odeurs des fêtes concordantes, peuvent influencer les acheteurs à passer plus de temps dans un magasin, à y retourner et à acheter, a noté Eric Spangenberg, le doyen de l'école d'affaires de la Washington State University. Dans une entrevue avec le Huffington Post en 2012, la musicothérapeute Jennifer Buchanan a noté que la musique peut procurer un sentiment de bien-être, ce qui peut expliquer pourquoi les gens magasinent davantage lorsqu'ils entendent de la musique festive. « La musique active les centres de récompense dans notre cerveau », dit-elle. Ce qui arrive pour la plupart d'entre nous, c'est qu'après quelques secondes, nous libérons des hormones telles que la dopamine, ce qui aide à créer un sentiment de bien-être. On est en train de démystifier pas mal de toutes ces choses-là. Quand on parle de tel truc, ça génère de la dopamine. On dirait que ça enlève un peu la... Mettons que la magie des fêtes passe par la dopamine. Donc, si vous ne tolérez pas les chansons de Noël, ce serait mieux de magasiner en ligne, voilà, Amazon, au lieu d'aller au centre d'achat. Ce texte, initialement publié sur Huffington Post, a été traduit de l'anglais. Pour une fois, je l'ai lu quand même parce que je voulais faire remarquer que pour une fois, je ne sais pas qui était le traducteur, mais c'était quand même bien. Parfois, on ne se force pas beaucoup. On fait traduire ça par un traducteur virtuel et ça donne des résultats assez cocasses. Alors voilà, la musique de Noël, on en a encore pour un bon deux semaines. Là. Accrochez-vous.
Et peut-être qu'on entendra un sentier de neige à un moment donné.
Ouais, ben je peux vous la faire jouer tantôt.
Oh oui, ce serait drôle. Oui. We'll be right back.
Donc, on est de retour avec Serge Bradet. Vous allez nous parler de quoi? On continue les...
Oui, je continue avec l'immigration.
L'immigration à Montréal,
oui. Oui. Les Vietnamiens.
Donc, mm-hmm. C'est milieu des années 70.
Oui.
Fin de la guerre.
Oui. Ouais. Alors que la guerre du Vietnam prend fin en 1975 avec la victoire du Nord, de nombreux habitants du Sud quittent le pays dans l'urgence sur des bateaux de fortune. Plusieurs de ces migrants, surnommés les « boat people », terminent leur parcours à Montréal. Ils viennent rejoindre des étudiants et des professionnels vietnamiens qui avaient déjà élu domicile ici. La communauté mettra sur pied des commerces et des lieux de culte entre Christophe Colomb et l'avenue du Parc, au nord de la rue Beaubien, mais les Vietnamiens s'intégreront dans l'ensemble du paysage montréalais. Alors, on peut dire qu'ils se sont vraiment intégrés.
C'est probablement le groupe qui s'est intégré le plus facilement.
Oui. Les Chinois. Après avoir terminé en 1885, c'est triste quand on parle de ça. Après avoir terminé en 1885 la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique dans l'ouest du pays, certains travailleurs chinois mettent le cap sur Montréal. La communauté se regroupe, puis il y en a beaucoup qui ont été retournés en Chine. La communauté se regroupe autour des rues Saint-Urbain, Saint-Laurent et de la Gauchetière, dans ce qui est toujours aujourd'hui le quartier chinois. Le Canada contrôle de manière serrée, voire discriminatoire, l'immigration chinoise dans les décennies suivantes. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'une nouvelle vague s'établit à Montréal. L'afflux se poursuit dans les années 80 et 90, surtout en provenance de Hong Kong, avant que celle-ci ne soit rétrocédée à la Chine en 1997. Une grande proportion de ces arrivants s'installe à Brossard. Les Haïtiens. L'arrivée au pouvoir du dictateur François Duvalier en 1957 conduit plusieurs Haïtiens à venir s'installer à Montréal. Dans les années 70, cette immigration prend de l'ampleur. Le gouvernement régularise le statut de plusieurs réfugiés dans la même décennie. Montréal devient une destination de prédilection pour ceux qui souhaitent fuir la misère, persistant longtemps après la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986. La communauté se concentre surtout dans le quartier Saint-Michel et à Montréal-Nord. Des milliers d'Haïtiens, pour la plupart parrainés, ont atterri à Montréal dans les années suivant le séisme de 2010. Les Maghrébins, en terminant, les Juifs séfarades sont les premiers Maghrébins à s'installer massivement à Montréal dans les années 50, après l'indépendance de plusieurs pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Des décennies plus tard, au début des années 90, la métropole accueille une quantité importante d'Algériens alors que la guerre civile fait rage dans leur pays. Le nombre de nouveaux arrivants d'origine maghrébine monte en flèche dans les années 2000. Ils ont pour la plupart été sélectionnés en raison de leurs diplômes, leurs compétences professionnelles et évidemment leur connaissance du français. La communauté s'établit surtout dans les arrondissements d'Antique-Cartierville et de Villeray-Saint-Michel par extension. Elle ouvre de nombreux commerces sur un tronçon de la rue Jean-Talon entre les boulevards Saint-Michel et Pinneuf, surnommé le Petit Maghreb. Dans les quartiers pharaoniques, maintenant, pour continuer tout à l'heure, pour continuer de ce que je vous disais tout à l'heure, on a encore un, oui. On était rendu... Les aéroports de Mirabel et de Dorval.
Oui, Mirabel.
Oui. À la fin des années 30, l'aéroport de Saint-Hubert ne suffit plus à la demande. C'était l'aéroport de Saint-Hubert avant celui de Dorval. Et le gouvernement fédéral décide de construire un nouvel aéroport à Dorval. Entré en service en septembre 1941, en pleine guerre, il devient dès la fin de la guerre l'aéroport le plus achalandé du Canada. Les prévisions d'augmentation du trafic aérien inciteront toutefois le gouvernement à construire l'aéroport Montréal-Mirabel à Sainte-Scolastique, expropriant plus de 3000 propriétaires,
on s'en rappelle.
C'est énorme, dont beaucoup de fermes, beaucoup de terres agricoles. Il ouvre ses portes en 1975 et reçoit tous les vols internationaux. Malheureusement, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. En 1997, les transporteurs retournent à Dorval. En 2000, un important programme de grandissement est mis en œuvre. Pour sa part, l'aéroport de Mirabel change de vocation et son aréogare est démantelé carrément. Il accueille désormais des avions cargo pour le fret aérien.
Avez-vous déjà pris un avion à Mirabel?
Oui, souvent.
Une seule fois, en 79.
C'était, je trouvais, très pratique.
Oui.
Parce que tout était concentré là, dans la... Tu arrivais et tu marchais pas énormément.
On marchait moins qu'à Dorval.
Et quand tu revenais, quand tu débarquais de l'avion au retour, la petite navette t'amenait carrément à l'entrée des douanes.
Au lieu d'avoir un corridor qui connecte à l'avion, c'était une navette. Ouais. Ouais, ça, j'avais apprécié.
Beaucoup de gens disent qu'ils l'ont fermé, mais qu'ils vont être obligés de la réouvrir dans peut-être 20-30 ans.
Peut-être.
Parce que ce qu'il y a comme augmentation maintenant du volume...
Darfal, c'est comment?
À un moment donné, il va avoir une limite.
Et effectivement, vous faisiez remarquer, on marche beaucoup à Darfal.
Ah oui, c'est...
Même s'il y a des tapis roulants.
Oui, ah ouais, non, c'est une bonne marche.
En tout cas, on arrive après plusieurs heures de vol, on a un petit peu... Effectivement, Mirabel, c'était toute une histoire.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'il nous reste peut-être une petite minute. Non, il ne nous reste plus de temps. Donc,
même
ça
pas pour un sentier de neige?
Mais non, il nous reste 30 secondes, malheureusement. Oh. Donc, c'est le temps de vous dire merci de nous avoir accompagnés pendant 7 heures.
Mais je veux un sentier de neige la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant Noël.
Je le demande.
On va faire jouer sentier de neige, absolument. Donc, c'était Serge Bradet et Daniel Lachance, et en l'absence d'Isabelle Falardeau qui devrait être de retour avec nous la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute dans quelques minutes. Ce sera l'émission Les Voix de Service avec le quotidien des quotidiens. Oui. Pardon, j'étais en vacances et on fait des changements.
Oui, c'est ça.
C'est Hélène qui va vous accueillir.
Notre chère Hélène Denis, que nous aimons beaucoup, beaucoup.
Bonne journée tout le monde.